Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs de la voix de l'Indonésie entière, voici les actualités du jour. Le titre du jour se compose avec le président indonésien Joko Widodo appel à la gestion précoce des incendies de forêts et de terre. Le président et de l'Assemblée discutent des lignes directrices de l'État. Le vice-président Yusuf Kalla encourage le développement du tourisme régional. Le ministère de la Défense a dit que le cas de la prétendue contrebande d'armes est inquiété toujours. Le ministère des Affaires étrangères a suggéré de poursuivre la voie diplomatique à la contrebande d'armes. Et l'Indonésie gère sérieusement le crime des océans. Chers juridiques auditeurs, voici le contenu complet. Le président indonésien Joko Widodo a confirmé que le gouvernement ne compromettrait plus pour les personnes qui ont prouvé d'être impliquées dans les incendies de forêt. Le chef de l'État a ordonné les responsables de l'application des lois de prendre des mesures fermes contre les entreprises et autres parties qui violent encore l'utilisation de terre. De plus, s'ils ont prouvé coupables, le gouvernement ne donnera plus d'avertissement, mais révoquer directement le permis d'affaires des entreprises. Cette confirmation a été transmise par le président Joko Widodo lors de l'ouverture d'une réunion de coordination sur les incendies de forêt et de terre en 2017 au Palais de l'État Jakarta lundi. Le président Joko Widodo a également demandé à toutes les parties, y compris aux membres de la police et de la communauté locale, de créer une synergie pour anticiper les incendies de forêt.
Saya ingatkan lagi, tidak boleh ada kompromi untuk.
J'ai rappelé que tout ce qui est lié aux incendies de forêt ne peut pas être compromis. J'ai rappelé à toutes les entreprises privées de suivre les règles. Si elles obtiennent déjà la concession, veuillez maintenir et garder la région. Pour ce qui enfreigne la règle, nous prendrons des mesures fermes. Nous appliquerons la loi. Je pense qu'en 2015 et 2016, les compagnies qui ont violé les règles ont été révoquées, gelé et ont obtenu l'avertissement. J'espère qu'en 2017, il n'y aura pas d'avertissement, juste révoquer leur permis d'affaires immédiatement. La réunion de coordination sur le contrôle des incendies de forêt et de terre en 2017 a été menée pour évaluer la gestion des incendies de forêt et de terre en 2016 et coordonner le plan de lutte contre les incendies de forêt et de terre en 2017. La réalisation en 2016 qui a été révélée dans cette réunion de coordination comprenait la diminution du nombre de points chauds ou le feu en 2016 de 82% et la diminution des phases incendies de tourbières et non tourbières ou les phases incendies de terre et de forêt ont été enregistrés jusqu'à décembre 2016 sont élevés à plus de 430 000 hectares, tandis qu'en 2015, il atteint plus de 2 millions d'hectares. Le président de l'Assemblée consultative populaire, ou MPR, Zulkifli Hassan, dit que cette année, MPR continuera à discuter de la formation des lignes directrices de l'État. C'est ce qu'a déclaré Zulkifli Hassan après une réunion avec le président de Joko Widodo mardi au Palais Merdeka. À cette réunion, le président a bien accepté la formation des lignes directrices de l'État. Zulkifli a également ajouté que la discussion sur l'élaboration des lignes directrices de l'État ont été approuvées par l'Assemblée elle-même et ont été diffusées au public. Zulkifli a expliqué que cette année, l'Assemblée poursuivra la discussion.
Kami juga menyampaikan perkembangan haluan negara, ya. Haluan negara yang sudah disepakati oleh
l'élaboration des lignes directrices de l'État qui a été approuvée par l'Assemblée générale a été résolue et socialisée. Les fractions ont déjà les matériaux de réunion générale du centre de recherche de MPR. Bien sûr, la question sera discutée encore cette année. Plus tôt, le président a dit que les lignes directrices de l'État sont très importantes. Nous attendons seulement le bon moment. Bien sûr, ce serait un long débat. Cette année, nous discuterons de la formulation des lignes directrices de l'État. Le développement de discussion sera porté à la connaissance du président. En outre, le président de l'Assemblée consultative populaire, Zulkifli Hassan, a déclaré que dans les réunions de consultation avec le président, il a également transmis au juge de la socialisation de quatre piliers de l'État. Il a également exprimé son appréciation concernant les efforts du gouvernement pour établir l'Institut de renforcement de Pancasila. Il a aussi déclaré l'établissement de l'Institut de renforcement de Pancasila doit être ajusté au développement de l'époque et il a également exprimé son soutien à la création de cet institut et espère que sa création pourrait être menée avec la coordination entre le gouvernement et l'Assemblée consultative populaire. Le vice-président Youssouf Kalla encourage le développement dans la région du tourisme, notamment trois destinations touristiques en Indonésie, telles que le lac de Toba, Tanah Toraja, avec la construction de l'aéroport, les transports terrestres et hébergement. Le vice-président Youssouf Kalla encourage le gouvernement régional pour développer le potentiel touristique via l'amélioration et la construction des infrastructures afin de soutenir des activités touristiques. Le développement du tourisme de cette région, en particulier pour les trois principales destinations touristiques indonésiennes, à savoir Lac Toba dans le nord de Sumatra, Bali et Tanah Toraja en Sulawesi du Sud. Cela a été transmis par le vice-président Youssouf Kalla lors d'une visite de travail à Tanah Toraja, Sulawesi du Sud, récemment. Et selon lui, chaque région possède un charme naturel différent que peut attirer les touristes à visiter et il faut construire.
Bali
Toraja parce qu'il faut les aéroports de concept qui puissent atterrir Boeing, la stratégie, la clé, et je dis que les gens ne veulent plus prendre le bus. Il prend 9 heures. Maintenant, le temps est plus cher, donc nous allons améliorer les bonnes infrastructures. Tanah Toraja a une attraction spéciale et la terre dans le nuage et le café, où les touristes peuvent boire du café directement sur le nuage. En outre, la culture et la coutume de Tanah Toraja, comme la maison typique de Toraja et les costumes traditionnels, y compris les gens de Tanah Toraja, qui sont sympathiques. Pour maintenir la beauté de la nature dans la zone touristique, la communauté locale devrait contribuer à maintenir la beauté naturelle, maintenir le propre et de ne pas endommager la beauté naturelle. Et il ne construit pas le bâtiment qui n'est pas en place. Le gouvernement local, en particulier Tanah Toraja, a fait le règlement régional afin de maintenir la beauté de la région. Chers auditeurs, auditeurs de la Voix de l'Indonésie, vous écoutez toujours les actualités de la Voix de l'Indonésie. Le cas de contrebande d'armes au Soudan impliquant prétendument des membres de la mission de paix de la MINUAT de l'Indonésie est encore être enquêté. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense, Ria Mizar Yakudu, à Rembang Purbalingga, Java Central, mardi aux journalistes liés à l'information que les membres de forces de paix militaire, l'armée nationale indonésienne, TNI, servant au Soudan, sont arrêtés à cause des efforts de contrebande des armes illégales à l'aéroport Al-Fasir au Soudan le 20 janvier 2017. Lors du retour de l'Indonésie après l'achèvement de leur tâche. Selon lui, un membre TNI, s'il veut aller partout, il faut demander l'autorisation. Néanmoins, il a dit s'il y a le membre TNI éprouvé que font la contrebande des armes au Soudan doivent être punis. Le vice-président de la Commission 1 du Parlement, Asli Tanjung, a demandé à la ministre indonésienne des Affaires étrangères de prendre la voie diplomatique au gouvernement de Soudan liée à l'accusation aux troupes de maintien de la paix de l'Indonésie impliquées dans la contrebande des armes hors du pays. C'est ce qu'a affirmé Asli Tanjung à Gedung Santara mardi et il a dit que cet incident est embarrassant l'Indonésie. Pourtant, les auteurs ne sont pas des casques bleus de l'Indonésie. Asli Tanjung a dit qu'il avait déjà pris contact avec les différents partis et il fait l'enquête. Les résultats, le TNI ou l'armée indonésienne et la police indonésienne ne sont pas impliqués dans ce cas, de sorte que l'enquête est faite toujours. Il a dit que la commission 1 du Parlement approfondira lié à ce cas en appelant le ministre de la Défense et le commandant en chef de TNI. Jusqu'à présent, l'ONU croit à l'Indonésie et contingent indonésien de force de le maintien de la paix qui obtient toujours les meilleures notes. Asir Tanjung a déclaré que l'Indonésie était inclus en fois beaucoup de contingents de casse bleue et jusqu'à présent, il n'y a pas de problème concernant les armes. Le dernier, le ministre indonésien des Affaires maritimes et de pêche, Susi Pujiastuti, a souligné que le gouvernement de la République indonésie était très sérieux de résoudre de différents crimes qui ont eu lieu dans l'océan, non seulement sur le cas de la pêche illégale. C'est ce qu'a affirmé le ministre Susi lors du lancement du rapport sur la traite des personnes, le travail forcé et la criminalité dans l'industrie de la pêche indonésienne au bureau du ministère des Affaires maritimes et de la pêche mardi à Jakarta. La ministre Susi Pujiastuti a confirmé en Indonésie on a fait l'application des lois et des enquêtes relatives à l'incidence des violations des droits de l'homme dans le secteur de la pêche, comme le cas à Benjina au Moluques en 2015. Elle a dit que le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a la mission d'assurer la mer comme l'avenir de la nation, si bien que sa partie a également commencé à faire l'inventaire et à analyser et à évaluer les navires étrangers, ce qui a produit la politique de moratoire et l'interdiction de transbordement. Selon Madame Pujiastuti, sa parti continue de chercher de 250 000 membres de l'équipage indonésien qu'il y a également le rapport qu'ils ont également été soumis à des traitements inhumains comme interdire à sortir du navire lorsqu'il amarre et d'autres. Chers journalistes et auditeurs, c'était les actualités de la Voix de l'Indonésie pour ce soir.
Chers auditeurs et auditrices, voici le commentaire aujourd'hui intitulé « L'impact de la sortie américaine du partenariat transpacifique ». Le président des États-Unis, Donald Trump, a rempli l'une de ses promesses de sa campagne, la sortie de l'accord de libre-échange du partenariat transpacifique. Il a aussi menacé d'imposer des sanctions pour les entreprises américaines qui déplacent des emplois américains à l'étranger. L'accord de partenariat transpacifique ou PTP, qui a été signé par 12 pays d'Asie-Pacifique en Nouvelle-Zélande où le leadership de Barack Obama a été rejeté par la majorité des citoyens des États-Unis et depuis sa création n'a pas été approuvé ou ratifié par le Congrès américain. Avec le retrait des États-Unis de l'adhésion au PTP, la force de PTP est réduite du côté économique. À l'origine, les 12 pays qui ont rejoint le PTP est de 40% de la puissance économique mondiale, car il comprend les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, Brunei, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Mexique, le Chili et le Pérou. La Chine n'a pas rejoint dans le partenariat. La sortie des États-Unis du partenariat transpacifique soulève des questions au sujet de la poursuite du partenariat. Est-ce que la décision de Donald Trump affectera les attitudes et les politiques des autres États membres comme l'Australie, le Japon, le Canada et le Mexique? Pour les États-Unis, il n'y a pas de risque politique à cause de la décision de Trump parce que le Congrès n'a pas ratifié le PTP. À travers la décision sur le premier jour de son règne, Trump a reçu sa propre image pour sa consistance. Pour les autres pays, y compris les membres du partenariat transpacifique, la décision du président Donald Trump peut être une indication que le nouveau président serait probablement changé beaucoup de politique étrangère des États-Unis, comme il a eu déclaré dans sa campagne. Ces auditeurs, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons avec la Journée nationale de la nutrition. Selon la ligne directrice de la Journée nationale de la nutrition, la Journée nationale de la nutrition est organisée pour la première fois par l'Institut de la nourriture des jeunes au milieu des années 1960 et a continué par la Direction de la nutrition aux années 1970 à nos jours. Cet événement est organisé pour commémorer le début de la force de cadre des travailleurs de nutrition de l'Indonésie avec la mise en place de l'École professionnelle de nutrition de l'Indonésie le 26 janvier 1961. Depuis ce moment-là, l'éducation de la main-d'œuvre de nutrition continue de se développer rapidement dans de nombreuses universités en Indonésie. Plus tard, il a été convenu que la Journée nationale de la nutrition a été fixée le 26 janvier. La Journée nationale de la nutrition n'est pas seulement un moment, parce qu'enfin, aujourd'hui, est comme une forme d'avertissement que la nutrition a un rôle essentiel dans la vie humaine. L'autre information est sur le 25 janvier 1999, le séisme de magnitude de 6,0 sur l'échelle de Richter a secoué la Colombie. Un tremblement de terre a secoué l'ouest de la Colombie et a fait au moins 1171 vies. Le séisme a été le plus grand pendant les 16 dernières années. Le séisme a détruit la capitale et le centre administratif de la Colombie, Bogota. La plupart des bâtiments qui se sont effondrés à cause du séisme est un bâtiment historique. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la mort de Sudharmono. Lors de la 3e conférence nationale de Golkar en 1983, le lieutenant général retraité Sudharmono a été élu président du conseil d'administration central de Golkar pour la période 1983-1988. En mars 1988, Sudharmono est élu vice-président du 5e cabinet du développement pour un mandat de 5 ans, de 1988 à mars 1993. L'élection de Sudharmono comme vice-président ne peut pas être séparée de son succès à conduire le conseil exécutif central du Golkar. Sudharmono est décédé le 25 janvier 2006 à 17h40 heure indonésienne occidentale à l'hôpital de Metropolitan Medical Center Kuningan, Jakarta. Sudarmono est mort à cause d'une infection pulmonaire et d'autres complications. C'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie. Avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec la mise au point sur l'environnement et pour le titre, le gouvernement anticipe les incendies des forêts et des terres en 2017. Le président Joko Widodo ou Jokowi a mis en garde la plus grande menace des incendies de forêt et des terres cette année. Selon les rapports de l'Agence de météorologie, climatologie et géophysique, BMKG, en 2017, le temps indonésien est plus sec que l'année précédente, de sorte que la menace des incendies de forêt et des terres est encore plus grande. Comme l'a déclaré le président Jokowi, tout en donnant l'orientation dans la science de coordination nationale sur le contrôle des incendies des forêts et des terres en 2017 au Palais d'État Jakarta lundi le 23 janvier. Le président a rappelé la nécessité de mesures précoces de prévention pour éviter la récurrence des incendies des terres et des forêts. Des mesures préventives qui doivent être faites, entre autres la mise en place d'arrêts d'urgence dès le début depuis la découverte des points de chaux. Parce que jusqu'à présent, la longueur de la procédure rend les efforts du gouvernement pour éteindre le feu devient trop tard. Le renforcement des systèmes d'arrêt précoce dans les zones sujettes aux incendies est également nécessaire. En outre, la construction de la cloison des canaux et des puits forêts a été faite à nouveau. Ceci, a dit Jokowi, est non seulement la responsabilité du gouvernement, mais aussi des entreprises privées, des propriétaires foncières. Le président Jokowi a également demandé qu'il y ait le poste de contrôle des incendies. Selon lui, les gens à l'alentour devraient également être impliqués pour anticiper les incendies. Enfin, vérifier les préparations et l'état d'alerte des outils à l'opération d'extinction d'incendies. Pour les incendiaires des terres et des forêts, le président a demandé aux organismes d'application de la loi afin d'avoir l'attitude ferme. En fait, le président Jokowi a également ordonné de ne plus donner l'avertissement aux entreprises impliquées du cas d'incendie de forêt, mais la révocation immédiate d'une licence des affaires de l'entreprise. Et le dernier effort, améliorer toujours la gestion des terres, en particulier celles liées aux terres publiques et des concessions privées. Jokowi a également appelé à renforcer la coopération entre le gouvernement central, le gouvernement local, militaire et la police dans la planification de prévention des incendies des forêts et des terres. Le président Jokowi veut que ses personnels, tant au niveau central et local, puissent répondre rapidement à l'existence des incendies terrestres et forestiers. Parce que le président Jokowi voit la perte des incendies des forêts et des terres qui sont assez grands, jusqu'à des centaines de trillions. Selon les données récentes, les pertes à cause des incendies de terre et des forêts en 2015 ont atteint de 120 trillions rupiah. Ce chiffre est hors de compter les pertes des secteurs de la santé, l'éducation, le matériel génétique, les émissions de carbone et d'autres. Les pertes plus élevées par rapport à un incident similaire en 1997 qui entraînait des pertes à jusqu'à 60 trillions rupiah. Sergitor, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le président indonésien Joko Widodo a confirmé que le gouvernement ne compromettrait plus pour les personnes qui ont prouvé d'être impliquées dans les incendies de forêt. Le chef de l'État a ordonné les responsables de l'application de loi de prendre des mesures fermes contre les entreprises et d'autres parties qui violent encore l'utilisation des terres. De plus, s'ils ont prouvé coupables, le gouvernement ne donnera plus d'avertissement, mais révoque directement le permis d'affaires des entreprises. Cette confirmation a été transmise par le président Joko Widodo lors de l'ouverture d'une réunion de coordination sur les incendies de forêt et de terre en 2017 au Palais de l'État Jakarta lundi. Le président Joko Widodo a également demandé à toutes les parties, y compris aux membres de la police et de la communauté locale, de créer une synergie pour anticiper les incendies de forêt.
Saya ingatkan lagi, tidak boleh ada kompromi.
J'ai rappelé que tout ce qui est lié aux incendies de forêt ne peut pas être compromis. J'ai rappelé à toutes les entreprises privées de suivre les règles. Si elles obtiennent déjà la concession, veuillez maintenir et garder la région. Pour ce qui enfreigne la règle, nous prendrons des mesures fermes. Nous appliquerons la loi. Je pense qu'en 2015 et 2016, les compagnies qui ont violé les règles ont été révoquées, gelées et ont obtenu l'avertissement. J'espère qu'en 2017, il n'y aura pas d'avertissement, juste révoquer leur permis d'affaires immédiatement. La réunion de coordination sur le contrôle des incendies de forêt et de terre en 2017 a été menée pour évaluer la gestion des incendies de forêt et de terre en 2016 et coordonner le plan de lutte contre les incendies de forêt et de terre en 2017. La réalisation en 2016 qui a été révélée dans cette réunion de coordination comprenait la diminution du nombre de points chauds ou le feu en 2016 de 82% et la diminution des phases incendies de tourbières et non-tourbières ou les phases incendies de terre et de forêt ont été enregistrées jusqu'à décembre 2016 sont élevées à plus de 430 000 hectares, tandis qu'en 2015, il atteint plus de 2 millions d'hectares. Le président de l'Assemblée consultative populaire, ou MPR, Zulkifli Hassan, dit que cette année, MPR continuera à discuter de la formation des lignes directrices de l'État. C'est ce qu'a déclaré Zulkifli Hassan après une réunion avec le président de Joko Widodo mardi au Palais Merdeka. À cette réunion, le président a bien accepté la formation des lignes directrices de l'État. Zulkifli a également ajouté que la discussion sur l'élaboration des lignes directrices de l'État ont été approuvées par l'Assemblée elle-même et ont été diffusées au public. Zulkifli a expliqué que cette année, l'Assemblée poursuivra la discussion.
Kami juga menyampaikan perkembangan haluan negara, ya. Haluan negara yang sudah disepakati oleh
l'élaboration des lignes directrices de l'État qui a été approuvée par l'Assemblée générale a été résolue et socialisée. Les fractions ont déjà les matériaux de réunion générale du centre de recherche de MPR. Bien sûr, la question sera discutée encore cette année. Plus tôt, le président a dit que les lignes directrices de l'État sont très importantes. Nous attendons seulement le bon moment. Bien sûr, ce serait un long débat. Cette année, nous discuterons de la formulation des lignes directrices de l'État. Le développement de discussion sera porté à la connaissance du président. En outre, le président de l'Assemblée consultative populaire, Zulkifli Hassan, a déclaré que dans les réunions de consultation avec le président, il a également transmis au juge de la socialisation de quatre piliers de l'État. Il a également exprimé son appréciation concernant les efforts du gouvernement pour établir l'Institut de renforcement de Pancasila. Il a aussi déclaré que l'établissement de l'Institut de renforcement de Pancasila doit être ajusté au développement de l'époque et il a également exprimé son soutien à la création de cet institut et espère que sa création pourrait être menée avec la coordination entre le gouvernement et l'Assemblée consultative populaire. Le vice-président Youssouf Kalla encourage le développement dans la région du tourisme, notamment trois destinations touristiques en Indonésie, telles que le lac de Toba, Tanah Toraja, avec la construction de l'aéroport, les transports terrestres et hébergement. Le vice-président Youssouf Kalla encourage le gouvernement régional pour développer le potentiel touristique via l'amélioration et la construction des infrastructures afin de soutenir des activités touristiques. Le développement du tourisme de cette région, en particulier pour les trois principales destinations touristiques en Asie, à savoir Lac Toba dans le nord de Sumatra, Bali et Tanah Toraja en Sulawesi du Sud. Cela a été transmis par le vice-président Youssouf Kalla lors d'une visite de travail à Tanah Toraja, Sulawesi du Sud, récemment. Et selon lui, chaque région possède un charme naturel différent que peut attirer les touristes à visiter et il faut construire.
Bali
Toraja parce qu'il faut les aéroports de concept qui puissent atterrir Boeing, la stratégie, la clé, et je dis que les gens ne veulent plus prendre le bus. Il prend 9 heures. Maintenant, le temps est plus cher, donc nous allons améliorer les bonnes infrastructures. Tanah Toraja a une attraction spéciale, et la terre dans le nuage et le café, où les touristes peuvent boire du café directement sur le nuage. En outre, la culture et la coutume de Tanah Toraja, comme la maison typique de Toraja, et les costumes traditionnels, y compris les gens de Tanah Toraja, qui sont sympathiques. Pour maintenir la beauté de la nature dans la zone touristique, la communauté locale devrait contribuer à maintenir la beauté naturelle, maintenir le propre et de ne pas endommager la beauté naturelle. Et il ne construit pas le bâtiment qui n'est pas en place. Le gouvernement local, en particulier Tanah Toraja, a fait le règlement régional afin de maintenir la beauté de la région. Seriorités auditeurs de la voix de l'Indonésie, vous écoutez toujours les actualités de la voix de l'Indonésie. Le cas de contrebande d'armes au Soudan impliquant prétendument des membres de la mission de paix de la MINUAT de l'Indonésie et encore être enquêté. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense, Ria Mizat Niyakudu, à Rembang Purbalingga, Java Central, mardi aux journalistes, lié à l'information que les membres de force de paix militaire, l'armée nationale indonésienne, TNI, servant au Soudan, sont arrêtés à cause des efforts de contrebande des armes illégales à l'aéroport Al-Fasir au Soudan le 20 janvier 2017. Lors de retour de l'Indonésie après l'achèvement de leur tâche. Selon lui, un membre de TNI, s'il veut aller partout, il faut demander l'autorisation. Néanmoins, il a dit s'il y a le membre de TNI éprouvé que font la contrebande des armes au Soudan doivent être punis. Le vice-président de la Commission 1 du Parlement, Asli Tanjung, a demandé à la ministre indonésienne des Affaires étrangères de prendre la voie diplomatique au gouvernement de Soudan liée à l'accusation aux troupes de maintien de la paix de l'Indonésie impliquées dans le contrebande des armes hors du pays. C'est ce qu'a affirmé Asli Tanjung à Gedung Santara mardi et il a dit que cet incident est embarrassant l'Indonésie. Pourtant, les auteurs ne sont pas des casques bleus de l'Indonésie. Asli Tanjung a dit qu'il avait déjà pris contact avec les différents partis et il fait l'enquête. Les résultats, le TNI ou l'armée indonésienne et la police indonésienne ne sont pas impliqués dans ce cas, de sorte que l'enquête est faite toujours. Il a dit la commission 1 du Parlement approfondira lié à ce cas en appelant le ministre de la Défense et le commandant en chef de TNI. Jusqu'à présent, l'ONU croit à l'Indonésie et contingent indonésien de force de le maintien de la paix qui obtient toujours les meilleures notes. Asir Tanjung a déclaré que l'Indonésie était inclus en fait beaucoup de contingents de casque bleu et jusqu'à présent, il n'y a pas de problème concernant les armes. Le dernier, le ministre indonésien des Affaires maritimes et de pêche, Susi Pujiastuti, a souligné que le gouvernement de la République indonésie était très sérieux de résoudre de différents crimes qui ont eu lieu dans l'océan, non seulement sur le cas de la pêche illégale. C'est ce qu'a affirmé le ministre Susi lors du lancement du rapport sur la traite des personnes, le travail forcé et la criminalité dans l'industrie de la pêche indonésienne au bureau du ministère des Affaires maritimes et de la pêche mardi à Jakarta. La ministre Susi Pujiastuti a confirmé en Indonésie on a fait l'application des lois et des enquêtes relatives à l'incidence des violations des droits de l'homme dans le secteur de la pêche, comme le cas à Benjina, au Moluk, en 2015. Elle a dit que le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a la mission d'assurer la mer comme l'avenir de nation, si bien que sa partie a également commencé à faire l'inventaire et à analyser et à évaluer les navires étrangers, ce qui a produit la politique de moratoire et interdiction de transbordement. Selon Madame Pujiastuti, sa partie continue de chercher de 250 000 membres de l'équipage indonésien qu'il y a également le rapport qu'ils ont également été soumis à des traitements inhumains comme interdire à sortir du navire lorsqu'il amarre et d'autres. Chers journalistes auditeurs, c'était les actualités de la Voix de l'Indonésie pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonjour chers amis, merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici la rubrique magazine culturel cette fois. Je vous invite à visiter l'île Belitung pour goûter l'alimentation typique de cette île. Alors, restez avec nous sur la Voix de l'Indonésie, le service international de la Radio République Indonésia. Au travers des ondes courtes, vous pouvez également écouter notre émission via le streaming audio sur www.voi.co.id ou via RRI Play sur votre téléphone intelligent. Chers auditeurs, la beauté naturelle de l'île de Belitung est déjà bien connue par les touristes locaux et étrangers. Outre la beauté naturelle qui est possédée comme des plages et des cascades, cette île est aussi populaire pour sa gastronomie. Pas étonnant que de nombreux touristes qui visitent pour goûter seulement les cuisines typiques de l'île de Belitung, l'une d'elles est Ketam ici. L'île de Belitung est une île située à l'offshore de l'est de Sumatra et flanquée par le détroit de Gaspar et le détroit de Karimata. Cette situation géographique conduit aux cuisines typiques à l'île de Belitung, ont les matériels premiers des fruits de mer comme ketam ou les crabes ou les portunidés. Les portunidés sont une famille de crabes qui a la forme comme un crabe, mais la saveur de la chair portunidée est différente des crabes. La viande des portunidés est plus tendre, savoureuse et sucrée que la viande de crabe. Alors ne soyez pas surpris si le portunidé est plus populaire d'être utilisé comme ingrédient alimentaire. Les ingrédients pour faire ketam ici sont la viande des portunidés ou des crabes, des œufs, le lait de coco, le jus de lime, la fécule de maïs et des épices traditionnelles. Ces épices sont entre autres l'oignon, l'ail, la coriandre, le gingembre, le poivre noir et le sel. Comme faire ketam ici? D'abord, bouillez les portunidés au crabe. Après cela, sortez la viande de coque et ne pas endommager la coque. Ensuite, mélangez les épices, la chair du crabe ou de portunidé et des œufs de poule. Quand il est bien mélangé, ajoutez le lait de coco et le fécule de maïs. Après cela, remplissez à nouveau progressivement la pâte dans la coquille des crabes pour cuire à la vapeur. Après cela, le résultat de vapeur enveloppé par les œufs puis frit. S'il est difficile de cuisiner comme ici sur l'île de Blitou, il y a beaucoup d'étals qui vendent cette nourriture. Le prix est tout à fait abordable à 10 000 roupias par pièce. Chers auditeurs, l'origine de l'émergence de ketam ici est parce que dans les temps anciens, beaucoup de crabes et crabes ont été trouvés mais pas être expédiés dans le marché ou à d'autres domaines. Le nombre d'opportunités et de crabes soulevaient les idées de l'alimentation typique de cette région. Tout d'abord, la viande de cette espèce de crabe est utilisée comme plat d'accompagnement à la maison. Après s'être rendu dans les goûts de viande délicieuse et distinctive, la viande est transformée et donnée d'autres épices. Après cela, ketam ici commence à être vendu aux étals. En entendu, cette nourriture est très bien vendue. Maintenant, la vente de ketam ici est la bonne affaire. Et une journée, les commerçants de ketam ici peuvent produire une moyenne de plus de 200 pièces. Ces crabes seront normalement exportés vers Jakarta, Bandung et même vers l'étranger, comme la péninsule arabique. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Ketam ici, une alimentation typique de Blitou. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt et au revoir.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme « Allez, apprendre l'indonésien ».
Bonjour les auditeurs et auditrices, nous revenons dans la rubrique « Apprendre l'indonésien » qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet d'aujourd'hui est « Belanja bahan bahan kue ». Ou en français, on dit acheter des ingrédients de gâteau. Réservez-nous sur www.voi.co.id. Je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et des expressions reliant au thème d'aujourd'hui. Je fais prononcer chaque mot deux fois et vous le répéterez après. Belanja bahan-bahan kue. D'acheter des ingrédients de gâteau. Belanja bahan-bahan kue. Acheter des ingrédients de gâteau. Apa kabar? Comment vas-tu? Apa kabar? Comment vas-tu? Baik. Ça va bien? Baik. Ça va bien? Apa kamu ada waktu? Tu as du temps? Apa kamu ada waktu? Tu as du temps? Menemani. Accompagner. Menemani. Accompagner. Belanja. Faire des courses. Belanja. Faire des courses. Ingin belanja apa? Faire des courses de quoi? Ingin belanja apa? Faire des courses de quoi? Keperluan bahan-bahan kue. Les ingrédients de gâteau. Keperluan bahan-bahan kue. Les ingrédients de gâteau. Tahun baru Imlek. La nouvelle l'an chinois. Tahun baru Imlek. Le nouvel an chinois. Di mana? Où? Di mana? Où? Pasar tradisional. Marché traditionnel. Pasar tradisional. Marché traditionnel. Apa saja yang dibeli? Qu'est-ce que tu vas acheter? Apa saja yang dibeli? Qu'est-ce que tu vas acheter? Keju? Le fromage. Keju? Le fromage. Susu bubuk. Le lait en poudre. Susu bubuk. Le lait en poudre. Susu cair. Le lait. Susu cair. Le lait. Coklat. Le chocolat. Coklat. Le chocolat. Terigu. La farine. Terigu. La farine. Gula pasir. Le sucre. Gula pasir. Le sucre. Telur. L'œuf. Telur. L'œuf. Mentega. Le beurre. Mentega. Le beurre. Dan lain-lain. Etc. Dan lain-lain. Etc. Kapan? Quand? Kapan? Quand? Berangkat? Partir. Berangkat? Partir. Sekarang lebih baik. Maintenant c'est mieux. Sekarang lebih baik. Maintenant c'est mieux. Baiklah. D'accord. Baiklah. D'accord. Mari kita pergi. Allons-y. Mari kita pergi. Allons-y. Bon, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase. Et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Lucy, A, et Ina, B. Hi Lucy, apa kabar? Hi Lucy, apa kabar? Salut Lucy, comment vas-tu? Baik. Kamu? Baik. Kamu? Ça va bien, et toi? Baik juga. Apa kamu ada waktu menemani saya belanja? Baik juga. Apa kamu ada waktu menemani saya belanja. Je vais aussi bien. Tu as du temps pour m'accompagner à faire des courses? Ada? Ingin belanja apa? Ada? Ingin belanja apa? Oui, j'en ai. Tu vas faire des courses de quoi? Membeli keperluan bahan-bahan kue tahun baru Imlek. Membeli keperluan bahan-bahan kue tahun baru Imlek. Des ingrédients de gâteau pour le nouvel an chinois. Di mana? Di mana? Où? Di pasar tradisional. Di pasar tradisional. Au marché traditionnel. Apa saja yang dibeli? Apa saja yang dibeli? Qu'est-ce que tu vas acheter? Keju, susu bubuk, susu cair, telur ayam, gula pasir, terigu, mentega, dan lain-lain. Keju, susu bubuk, susu cair, telur ayam, gula pasir, terigu, mentega, dan lain-lain. Du fromage, du lait en poudre, du lait, des œufs, du sucre, de la farine, du beurre, etc. Kapan kita berangkat? Kapan kita berangkat? Quand partons-nous? Sekarang lebih baik. Sekarang lebih baik. Maintenant c'est mieux. Baiklah, mari kita pergi bersama. Baiklah, mari kita pergi bersama. D'accord, allons-y. C'était l'édition du programme Apprendre l'Indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus de la langue indonésienne. Nous vous reverrons la prochaine fois avec un sujet différent. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.
Comme l'enfant de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie, voici le magazine de pelangi nada ou magazine de musique. Pour ce soir, comme chaque mercredi, on vous présente l'édition de genre pop. Et pour ce soir, on vous introduit les chansons de composer Firdy Magananda. Ou mieux connu Baby Romeo. Les Indonésiens connaissent Baby Romeo que Firdy Magananda. Vous savez, Baby Romeo ou Firdy, il est né au mois de septembre 1974. On met le nom Romeo parce qu'il était le membre du groupe Romeo. Auparavant, avec son groupe, il a fait du succès. Mais après être sorti du groupe Romeo, Baby est de plus en plus célèbre. Bon, chers amis, maintenant, comme l'ouverture de notre rencontre, allez écouter la chanson de Baby Romeo intitulée Bunga Terakhir. Bonne écoute.
Seluruh cintaku untuknya. ini sungguh berarti, tetaplah terjaga selama tinggal kasih. Ku telah pergi selama.
C'est notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.